Avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, aimer en féministe.
We've always thought of our heroes as having to do with death and war.
Nous avons toujours associé nos héros à la mort et à la guerre. Et quand on pense à l'idée d'un voyage héroïque, c'est rarement un voyage qui parle d'amour. Il s'agit plutôt d'exploits liés à la conquête, à la domination, et ainsi de suite. Et donc ce que je voulais dire aux gens, c'est que dans une culture de la domination comme la nôtre, vraiment choisir d'aimer est héroïque. L'amour est sans doute l'un des thèmes qui traverse le plus la pensée de Bell Hooks, celui qui en fit un phénomène de librairie avec son livre All About Love à propos d'amour. Mais alors pourquoi ? Pourquoi faire de l'amour un sujet central alors qu'il est si difficile d'en parler ? Alors que c'est un sujet si peu pris au sérieux par les intellectuels, la philosophie en général et même la pensée féministe en particulier. Un sujet en apparence également si peu politique. Comment donc Bell Hooks est-elle parvenue à redonner toutes ses lettres de noblesse à l'amour pour en faire le cœur vivant de sa pensée ? On en parle ce matin avec mes deux invités que je suis très heureuse d'accueillir. En studio avec moi, Sarafila Bakabadio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne en études américaines et africaines-américaines, maîtresse de conférences à Cergy Paris Université et rédactrice en chef de African Diaspora, ainsi que membre de la maison d'édition Robocric. Et à distance avec moi depuis Lausanne, Éléonore Lépinard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeure en études de genre à l'Université de Lausanne et notamment l'autrice chez Anna Moza de Féminisme, paru en 2024, et de Pour l'intersectionnalité avec Sarah Mazouz, paru en 2021. Je vais commencer avec vous, Éléonore Lépinard. On a entendu cette intervention de Bell Hooks qui dit que choisir d'aimer dans une société de la domination est un acte héroïque, véritablement héroïque. Et ma question est simple, pourquoi ? Pourquoi est-ce héroïque d'aimer ?
Oui, alors selon Bell Hooks, c'est un acte héroïque parce que tout ce qu'elle va mettre sous le concept d'amour est l'exact opposé de la culture de la domination capitaliste, raciste, patriarcale, des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est mettre en avant un ensemble d'éléments de éthique, politique, moraux, affectifs, qu'elle détaille à de nombreuses reprises, qui vont exactement à l'encontre de tout ce qu'on nous inculque dans la société, par les médias, par l'éducation, comme ce qui devrait avoir de la valeur. Et c'est aussi, de façon importante, aller à l'encontre de la peur. La peur qui est le socle sur lequel un certain nombre de relations d'oppression sont fermement ancrées. Et je rajouterais juste aussi que Bell Hooks, c'est bien sûr une penseuse de l'intersectionnalité, de l'imbrication des rapports d'oppression, et donc on peut ajouter que c'est d'autant plus héroïque pour les groupes opprimés de choisir l'amour, parce que cela va exiger d'elles et eux, bien sûr, d'aimer leurs proches, d'aimer leurs amis, d'aimer leur famille, mais aussi d'aimer leurs ennemis.
Sarafila Bakabadio, je vous pose la même question. Est-ce que l'amour est finalement l'outil central qui permet, comme vient de le dire Éléonore Lépinard, de lutter contre toutes les formes de domination et d'oppression ?
Alors oui, dans une forme effectivement ultime et visiblement en fait dans le même style que Martin Luther King, c'est à ça que je pense en fait quand je lis sa définition, c'est-à-dire que... Effectivement, c'est un dépassement dans le contexte états-unien des divisions raciales et avoir la capacité, en fait, effectivement, d'aimer son ennemi et de construire avec lui. Il faut quand même comprendre et replacer ça dans le contexte, en fait, de l'époque. Elle grandit dans une Amérique ségrégée. Elle grandit dans un espace où elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas exprimer ses émotions. Elle ne peut pas dire qui elle est, en fait. Et dire qu'elle va construire, en fait, avoir ce geste en fait envers un autre blanc qui peut aussi la discriminer, c'est un dépassement ultime. C'est effectivement très très héroïque dans ce contexte-là de choisir. Et elle parle beaucoup de d'amour comme choix, de choisir, de dépasser les divisions qui ont fondé la nation américaine. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un moment particulier qui est la ségrégation, c'est le fondement de cette société-là et de dire qu'à partir de maintenant, il faut que nous soyons ensemble et que nous construisions un ensemble à partir de l'amour, c'est effectivement extrêmement héroïque, je reconnais.
Alors, on va justement écouter une lecture de son texte à propos d'amour, dans lequel, vous l'avez évoqué, Sarafila Bakabadio, elle définit l'amour.
J'ai passé des années à chercher une définition du mot « amour » qui ait du sens. Et j'ai été profondément soulagée le jour où je l'ai trouvé dans l'ouvrage de développement personnel de référence du psychiatre Morgan Scott Peck, « Le chemin le moins fréquenté ». Il définit l'amour comme la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Il développe ensuite cette idée. L'amour, c'est ce qu'on fait. L'amour est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement. Et la volonté implique aussi un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. Cette définition s'oppose à l'idée communément acceptée d'après laquelle l'amour serait instinctif. Avant de savoir parler, avant de connaître l'identité des personnes qui s'occupent d'eux ou d'elles, les bébés réagissent quand on leur prodigue des soins affectueux. L'affection n'est qu'un des ingrédients de l'amour. Pour aimer vraiment, nous devons apprendre à mélanger plusieurs ingrédients. Soins, affection, reconnaissance, respect, engagement et confiance, ainsi qu'une communication honnête et ouverte. Parce qu'on nous apprend des définitions erronées de l'amour dans notre jeunesse, il nous est plus difficile d'en faire preuve en grandissant.
C'était donc « À propos d'amour » qui est apparu chez Divergence en 2022 dans la traduction d'Alex Taillard, lu ici par Marie-Sona Condé. Avant de décortiquer un petit peu ce texte dans lequel il y a beaucoup de choses, je voulais qu'on s'arrête sur ce que dit le début du texte, puisqu'elle fait référence à un ouvrage de développement personnel. Ce livre, donc, est un assez grand succès de librairie. Il est souvent vendu, justement, dans le rayon développement personnel ou psychologie. Ce n'est pas quelque chose que Bellux récuse, loin de là. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sarafina Bakabadio, est-ce qu'on doit lire ce texte comme un ouvrage de développement personnel, et quel rapport est-ce que Bellux entretient avec ce type d'ouvrage?
Alors, on peut le lire comme un ouvrage de développement personnel dans la mesure où elle travaille en fait un certain nombre de thématiques liées effectivement à l'amour à travers ses expériences, puisque son parcours de vie est le fil conducteur en fait de ses ouvrages. Donc, on a effectivement, notamment dans le premier livre, Tout sur l'amour, qui est de sa trilogie Love to the Nation, qui est en fait effectivement décrit les différents types d'amour que l'on peut rencontrer dans une vie, en commençant par l'amour filial, l'amour parental, que l'on a ou que l'on n'a pas dans son cas. Et on suit ce mouvement et on va avec elle, en fait. On l'accompagne, en fait, dans ses différentes étapes de vie jusqu'à la période de midlife crisis, dans un sens. Donc, la femme qui est à peu près la cinquantaine. Donc, en utilisant cette expérience-là, en tissant cette expérience-là avec des réflexions plus larges sur ce que veut dire l'amour, avec des réflexions philosophiques et aussi en insérant des références à des auteurs comme Scott Peck, en fait, on peut effectivement lire ces ouvrages de cette manière-là. Mais ça, c'est un premier niveau qu'on peut considérer comme bénéfique pour chacun d'entre nous, mais on peut relire ensuite, et c'est la spécificité aussi de Bell Hooks, ce ne sont pas des livres que l'on lit qu'une fois, on les relit à différents âges de la vie, et on peut relire ce texte d'un point de vue féministe. On peut le relire d'un point de vue de femme noire, et donc, oui, il y a cette dimension-là, mais elle n'est pas unique.
Éléonore Lépinard, est-ce que cette dimension donc de développement personnel, cette dimension très intime, qui se trouve aussi dans l'écriture de Bell Hooks, qui s'appuie sur ses expériences personnelles, qui fait que ces textes sont aussi, on l'a beaucoup dit, mais je pense qu'il faut le redire, extrêmement accessible. Le fait, en effet, comme l'a dit Sarafina Bakabadio, que c'est un texte all about love, à propos d'amour, qui s'adresse à toutes et tous, est-ce que ça ne peut pas gommer un petit peu la dimension politique que peut avoir la question de l'amour que nous avons rapidement évoquée? Effectivement, faire ce choix d'aimer dans la filiation de Martin Luther King contre, en quelque sorte, les Black Panthers, toute cette dimension-là, est-ce qu'elle n'est pas un peu effacée par justement le fait que c'est un texte qui s'inscrit aussi dans la tradition du développement personnel et qui s'appuie sur quelque chose d'individuel et d'intime?
Oui, alors on peut essayer de comprendre pourquoi finalement Bell Hooks, elle fait le choix de se centrer autant sur l'expérience personnelle, enfin sur l'amour dans un sens vraiment très intime, très personnel. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons à cela. Disons qu'effectivement, ça peut mettre au second plan le fait qu'en fait, elle a une approche qu'on peut appeler une sociogénèse de l'amour. C'est-à-dire, en fait, pour elle, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime, mais à la fois de complètement social, de traverser de part en part par le social. Puisque quand bien même elle nous parle de ses expériences, elle a vraiment une épistémologie du savoir expérientiel, elle, tout ce qu'elle nous dit, elle va le ramener à des expériences, à des formes de vérité de son expérience. Donc quand bien même elle utilise son expérience, dans le background, j'ai envie de dire, de tout ce qu'elle nous raconte, il y a le patriarcat, il y a l'Amérique ségrégationniste, puis l'Amérique raciste, il y a l'impérialisme, puisqu'elle a aussi connu l'époque de la guerre du Vietnam, il y a la suprématie blanche. Donc, en fait, elle n'amène pas ces éléments sociaux, finalement, comme des concepts, elle les amène comme du contexte. Alors, ça peut donner l'impression que effectivement, elle est centrée sur le développement personnel. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que elle a un objectif de transformation sociale en nous parlant d'amour. Même si elle nous parle de l'amour comme d'un choix individuel et d'une transformation de soi, voilà, elle fait le choix de nous dire. La société, on va la transformer, mais c'est d'abord en chacun d'entre nous qu'il va falloir guérir un certain nombre de blessures qui sont liées à ces systèmes sociaux d'oppression. Et nous allons les guérir par l'amour. Donc voilà, donc c'est politique, mais c'est une politique qui va venir se loger finalement dans l'intimité des formes de réparation personnelle qui sont liés à l'amour et à la pratique de l'amour et au choix de l'amour.
Oui, d'où l'importance d'ailleurs de la question des enfants, sur lesquels elle insiste beaucoup, de l'amour maternel. Là, ça n'est certainement pas un hasard si dans sa définition de l'amour, elle parle des bébés. Sarah Phila Macavadio.
Oui, il faut, en fait, quand on voit une forme de simplicité en fait dans la langue de Bell Hooks, c'est aussi un choix véritablement d'écrivaine, de transmettre au plus grand nombre. Et elle a véritablement, en fait, une envie et un désir très politique, en fait, d'atteindre le plus grand nombre pour que chacun s'empare dans un second temps, en fait, des idées qu'elle peut porter. Et effectivement, le fait de partir de son expérience individuelle, de son expérience, signifie aussi avoir une résonance avec un lectorat. Et cette efficacité-là, en fait, n'est pas forcément dans un livre de développement personnel, même si ça ressemble à ça. Et puis, elle est vraiment dans la lignée de King. C'est très très frappant pour moi qui travaille sur l'histoire afro-américaine d'une pensée du changement social qui passe par en fait l'amour et par l'amour comme usage politique. Et c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'elle fait une référence à un homme et pas à une femme. Et étant écrivaine, ayant repris un titre qui vient de Harriet Tubman, Ne suis-je pas une femme, c'est quelque chose qui est assez surprenant comme filiation.
Eleanor Lépinard, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que vraiment l'accessibilité, ça fait partie de cette idée que elle écrit à partir de son expérience. Et ce qu'elle écrit sur l'amour, c'est une mise en pratique de cette idée que l'amour est une pratique d'émancipation. Et donc, pour émanciper les gens, il faut qu'ils soient, il faut dire des choses de façon accessible, en fait. Il faut aller parler à leur compréhension du monde, à leur expérience intime. Voilà. Donc, je pense que vraiment, son style, cette apparente simplicité, ça fait vraiment partie d'une politique, en fait, du savoir, qui considère l'amour comme une pratique d'émancipation. Donc voilà, il faut parler de l'amour d'une façon qui va pouvoir délivrer les gens des carcans, des relations d'oppression, de tout ce qui les enferme dans des formes de peur et qui du coup reproduit ces relations d'oppression dans la société.
Alors dans son expérience et sa vie personnelle, on a évoqué un petit peu dans notre premier épisode tout ce qui relève de sa blessure d'enfance. Est-ce qu'on peut là trouver la source de justement cette attention particulière qu'elle porte à l'amour, notamment dans la définition que nous avons lue, que nous avons entendue, ce qu'elle dit justement sur les bébés et plus généralement sur les enfants, la différence entre l'amour et le simple soin ou entre l'amour et la simple attention passion ou affection, et même ce qu'elle dit dans d'autres textes, la différence entre l'amour et le soutien, disons, le support matériel qui, dans des traditions, enfin, dans des questionnements qui sont hérités de l'esclavage. Serafina Bacavadio, est-ce qu'on peut dire comme ça que tout ça, ça, c'est ces blessures d'enfant, en fait, qui rejaillissent dans ces textes?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, elle a une enfance assez traumatique de violence intrafamiliale qui l'oblige à réfléchir à l'amour, qui l'oblige à dissocier aussi l'amour d'une forme de cruauté. Elle en parle assez fréquemment de son apprentissage, en fait, d'une sorte de paire paradoxale entre la violence parentale et ces questions, les questions qu'elle se pose en se demandant si finalement ces gestes-là qui sont brutaux, en fait, ne cachent pas une forme d'amour profond qu'elle n'aurait pas encore décelé. Et effectivement, en fait, il y a cette blessure qu'elle a et qu'elle essaie aussi de combler par des relations romantiques qui ne la comblent pas, en l'occurrence, puisque ses conjoints, en fait, ont une lecture qu'elle juge confuse, en fait, de l'amour qui est effectivement du soin, qui est aussi s'entourer d'une forme de matériel qui serait là pour compenser, en fait, le sentiment. Et oui, il y a cette blessure-là, et en même temps, alors c'est un peu madame en même temps, dans un sens, c'est que elle ne veut pas, quand elle parle, par exemple, à d'autres féministes, elle ne veut pas non plus que la blessure soit le seul point de jonction, en fait, entre elles. Il faut aussi retrouver une forme de complexité de toutes ces vies féministes, et toutes ces vies de femmes noires, et que partir uniquement d'une blessure collective serait, en fait, un trope qui mettrait fin, en fait, aux féministes. Donc, oui, elle a les deux, en fait, aspects dans sa réflexion.
Oui. On en a un petit peu parlé hier. Éléonore Lépinard, je voulais terminer dans cette question de la définition un petit peu de l'amour, sur la question de l'amour de soi, puisqu'elle arrive souvent à cette conclusion. Tout amour doit reposer sur de l'amour de soi, du self-love. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu son credo, et ça correspond visiblement à son parcours qu'elle appelle un parcours de guérison, un cheminement, enfin voilà, quelque chose qu'elle assume ou qu'elle arrive à finalement mettre en place au mi-temps de sa vie, comme elle dit souvent. Alors, c'est là aussi, elle reprend des idées qui sont liées à de la littérature de développement personnel, mais avec les mêmes éléments qui sont l'intégrité, le respect de soi, l'acceptation. Alors ça, c'est le type de thématique, en fait, qu'elle thématise, et finalement, l'amour de soi ou l'amour des autres sont composés par les mêmes éléments. Il s'agit pas du tout que de l'amour romantique. Il s'agit vraiment, il y a une dimension de prendre la responsabilité pour soi-même et après prendre la responsabilité de ses relations avec les autres. C'est vrai que on n'associe pas forcément dans nos sociétés, dans nos cultures, la notion d'amour avec la notion de responsabilité.
Alors je vous interromps juste une seconde, parce que dans le texte que nous avons lu, en effet, elle donne les différents éléments de l'amour. Dans ce texte-là, il n'y a pas la responsabilité, mais c'est un élément qui est très présent dans d'autres textes. Je vous laisse poursuivre, Éléonore Lépinard.
Oui, absolument. Alors, la liste des éléments de l'amour change de temps en temps, mais il y a le respect, la confiance, la communication, la responsabilité. Donc, je pense que vraiment, c'est tous ces ingrédients qui montrent aussi à quel point qu'on parle de l'amour ou de l'amour de soi, chez Bellux, on n'est pas du tout dans ces visions très restrictives qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos cultures, soit de l'amour romantique, soit de l'amour comme d'une émotion qui nous traverse et sur laquelle on n'aurait pas de contrôle, soit de l'amour de soi comme le fait de prendre soin de soi au sens de finalement, en fait, se perfectionner sous différents aspects corporels ou moraux. Voilà, on est vraiment dans une éthique, une approche morale, de respect de soi, d'intégrité et de prise de responsabilité pour son existence dans le monde. Avec quand même aussi chez elle, et c'est peut-être quelque chose que on ne lit pas forcément, quand on lit Bellux traduite en venant d'un contexte français, mais avec une dimension spirituelle qui est aussi très importante et qui est ancrée dans son histoire, dans son histoire spirituelle, qui est très centrale.
Oui, une dimension spirituelle chrétienne et aussi bouddhiste. Elle cite beaucoup, notamment Thich Nhat Hanh, dans ses textes, notamment sur l'amour.
Serafina Bacavadio. Oui, alors moi je connais moins la dimension bouddhiste de Berkoux, mais elle est très baptiste.
Oui.
Elle est très très ancrée dans une tradition baptiste, Et c'est ce qui lui permet en fait de développer une dimension de l'amour qui est bien plus, qui peut être parfois utopique, mais qui est aussi très large et qui peut s'appliquer à toutes les situations. Ça donne un possible, et c'est ça aussi qui est une efficacité dans son texte, c'est que c'est accessible par tout le monde et c'est possible, atteignable dans une vie, alors que potentiellement tout le monde n'atteindra pas l'amour romantique.
France Culture, avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
Les hommes patriarcaux sont formés à l'art d'être responsables et de subvenir aux besoins matériels des autres. Lorsque, adolescente, je me plaignais de la négligence et de la maltraitance affective dont faisait preuve papa, ainsi que de sa violence sporadique à l'égard de maman, celle-ci s'empressait toujours de me rappeler qu'il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il était à la maison presque tous les soirs et que, pour cette raison, nous devions le respecter et l'honorer. Dans notre culture, le fait que les hommes soient à la fois capables de s'occuper de leur famille et de se montrer violents a occulté à quel point leur violence les empêche de donner et de recevoir de l'amour. Le premier acte de violence que le patriarcat exige des hommes ne consiste pas à être violent envers les femmes. Au contraire, le patriarcat exige de tous les hommes qu'ils se livrent à des actes d'automutilation psychique, qu'ils exterminent leur moi affectif. Lorsqu'un individu ne parvient pas à s'estropier affectivement, il peut compter sur les hommes patriarcaux pour mettre en place des rituels de pouvoir qui attaqueront son estime de soi. Le mouvement féministe a offert aux hommes et aux femmes les informations nécessaires pour lutter contre ce massacre psychique.
C'est un extrait, c'était un extrait de La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour, paru chez Divergence en 2021, dans la traduction d'Alex Taillard, et lu toujours par Marie Sona Condé. Sarah Phila Bacavadio, Bell Hooks développe un féminisme qui parle beaucoup des hommes et qui parle beaucoup aux hommes. Dans son mémoire, elle parle des hommes de sa famille, son père, donc on a dit violent. Il y a une autre figure, c'est son grand-père, Dadigus. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, elle parle beaucoup effectivement de ces hommes qui sont des référents, référents positifs effectivement de ce grand-père qui est très accueillant, qui l'aide en fait à devenir une jeune fille et à une à pleinement habiter son espace de jeune fille. Et c'est un contrebalancement avec son père qui est une figure qui lui échappe en fait, qu'elle essaie de retenir jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, au dernier souffle en fait. Et ce qui est très intéressant aussi, notamment dans ce texte, c'est qu'elle, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas d'accusation des hommes, mais il y a une tentative de comprendre en fait comment en fait la construction de la masculinité passe par une absence forcée de l'amour.
Avec un lexique qui est quand même extrêmement frappant, je trouve, quand elle parle d'automutilation psychique, de massacre psychique, d'extermination du moi affectif, il y a une violence presque, on peut dire.
Il y a une violence qu'on peut aussi comprendre dans le contexte afro-américain, c'est-à-dire que les hommes noirs sont principalement ceux qui sont persécutés à travers l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation, et puis aujourd'hui, comme on voit avec Black Lives Matter, et que donc du coup, il y a aussi cette dimension d'amoindrissement que les hommes noirs intègrent malgré eux, imposée par la société racialisée. Et donc elle est totalement consciente en fait qu'il y a une forme de prise en charge à avoir en fait de cette dimension-là aussi par les femmes, c'est-à-dire que si on peut élargir la question des maternités noires, puisqu'elle parle beaucoup aussi de l'enfant qu'elle aurait aimé avoir, ça fait aussi partie en fait de cette dimension-là, prendre en charge aussi les hommes, pour prendre en charge leurs blessures et comprendre d'où elles viennent pour pouvoir comprendre comment on peut développer une forme d'amour à partir de ça.
Eleanor Lépinard, la question qui peut se poser aussi dans le cadre d'une réflexion féministe, c'est la place de l'homosexualité. Elle parle beaucoup, on l'a évoqué, de ses compagnons. Donc on a déjà parlé dans l'épisode précédent de Nathaniel Mackie, son compagnon de longue date, qui en effet n'a pas voulu avoir d'enfant avec elle. Elle évoque aussi un autre compagnon plus jeune avec qui elle a eu une relation longue. Elle parle beaucoup de son célibat. Elle parle assez peu de l'homosexualité. Quelle place ça occupe dans sa pensée?
Oui, alors effectivement, c'est vraiment pas une réflexion centrale du tout dans la pensée de Bell Hooks. Alors on peut faire le contraste, par exemple, parce qu'aujourd'hui on relit par exemple Monique Wittig, donc avec l'idée qu'on peut avoir une forme de lesbianisme politique qui propose aussi un projet social féministe, on va dire, et qui est plutôt un projet de séparation en fait avec les hommes et de réponse au patriarcat par le lesbianisme. Et évidemment, avec Bell Hooks, on est totalement à l'opposé de ce type de réflexion, puisqu'au contraire, et je pense que c'est vraiment important de le souligner, elle dit quelque chose de très simple, mais elle dit en fait tout le monde veut l'amour des hommes. Et d'ailleurs, même en fait les lesbiennes, les hommes hétéros ou gays, les femmes hétérosexuelles, parce que c'est pas que l'amour romantique, on veut l'amour des pères, des frères, des compagnons, des enfants, des fils, voilà. Tout le monde veut l'amour des hommes, mais le patriarcat, en fait, refuse en particulier aux hommes la possibilité d'être aimé pour qui ils sont, puisqu'en fait, on valorise les garçons. C'est quelque chose qui la préoccupe beaucoup hein, dans son ouvrage sur la volonté de changer. En fait, l'amour qu'on prodigue aux garçons, on leur prodigue parce qu'ils sont mâles. Parce qu'ils sont garçons, on leur prodigue pas pour eux leur être singulier. Et ça, selon elle, ça constitue une blessure très importante qui va justement les empêcher à leur tour d'aimer. On va leur inculquer une incapacité à aimer.
Sarah Filamac-Amadio, pour terminer, juste, on peut rebondir sur ce que vient de dire Eleanor Lépinard. Est-ce que l'amour qu'on donne aux enfants et l'amour qui est finalement aussi socle, fondamental, elle en parle énormément.
Elle en parle énormément et elle s'inquiète aussi du rôle des femmes qui ont absorbé en fait les représentations patriarcales de la société et qui ont tendance à favoriser en fait les fils par rapport aux filles. Et elle, là pour le coup, elle a un reproche assez féroce de ces femmes qui en fait minent le travail qu'elle est en train d'essayer de faire de déconstruction en fait des formes de domination. Là, elle pose la chose et elle va jusqu'à dire en fait qu'elle mine aussi les effets du féminisme parce que ce sont des femmes qui reproduisent des mécanismes de domination vis-à-vis d'autres femmes, notamment de classe sociale plus inférieure.
Merci infiniment à vous deux, Eleanor Lépinard et Sarah Filabac-Amadio. Toutes les références de vos ouvrages ainsi que la réécoute de cette émission et de toute la série sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission et dans l'application Radio France. Dès demain, vous pourrez retrouver un cahier central consacré à Bell Hooks dans le nouveau numéro de Philosophie Magazine. Je vous signale deux titres qui ne sont pas traduits en français. Salvation sur l'amour au sein des communautés noires et We Real Cool dont nous parlerons peut-être demain sur les masculinités noires pour prolonger notre discussion. Cette émission a été réalisée par Taïsia Froidur, prise de son Ludovic Ogier et Anthony Thomasson. Merci beaucoup à Marie-Sona Condé pour ses lectures toute la semaine. Et demain, donc, notre quatrième épisode portera sur les textes que Bell Hooks consacre à la question raciale, avec mes deux invités, Audrey Célestine et Laurence Meyer. À demain. A snow-capped mountain. Love can be the sun. Love can be two hearts that flower as one.